chose promise, chose due, ce soir, je vous emmène au concert. Enfin, comme si vous y étiez. Alors restez dans le studio, il y a un très bon son, et même, comme au cinéma, il y a un générique de début. Générique imaginaire d'un feuilleton qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, c'était les Pixies en 1990, Cecilia Ann, c'était le titre du morceau. Alors si vous avez un certain âge et une bonne mémoire, vous vous rappelez sûrement que c'était le titre instrumental par lequel débutait l'album Bossa Nova, le quatrième de ce groupe, surgi, enfin, dans ce qui était alors le petit monde du rock indépendant d'Angleterre, alors qu'en fait, il était américain. Il venait précisément du nord-est des États-Unis, de la ville de Boston, pour être précis. Oui, c'est une petite marque très prestigieuse alors, 4AD, hein, 4AD, qui avait découvert les Pixies. Un choix d'ailleurs extrêmement inattendu parce que 4AD, c'était un label plutôt spécialisé dans des musiques froides, assimilées à tort ou à raison au courant gothique. Ça allait du groupe Bauhaus au groupe Dead Can Dance, hein, vous savez, qui recourait à des instruments de divers folklores, de la Turquie à la Chine. Et puis, il faut rappeler aussi que le premier groupe de Nick Cave, The Birthday Party, traversé de dissonances qui se voulaient free jazz, avait également fait ses débuts à Londres, au début des années 80, chez 4AD. Alors, vous connaissez la formule. Ce soir, ce sera une sorte de concert rêvé des Pixies, chez vous, où que vous soyez, sans que vous ayez à sortir de votre cuisine, salle de sport, descendre de votre vélo ou arrêter votre course. Bah oui, je vous dis ça parce que j'apprends plein de trucs sur vous qui écoutez cette émission, enfin quand je vous rencontre. Bref, alors, les Pixies, on en a parlé cette semaine au cours des deux premiers épisodes de cette série. Ils sont dans l'actualité puisqu'ils viennent de publier un nouvel album, Beneath the Eyrie. C'est le troisième depuis le retrouvail en 2013, retrouvail qui avait mis fin à une cessation d'activité longue de 21 ans. Alors ce soir, comme on n'a qu'une heure, comme d'habitude, hein, on va se concentrer sur la période classique des Pixies entre 87 et 92. Une période très riche, à la variété inattendue, parce que pour dire les choses vite, les Pixies n'ont jamais été un groupe qu'on peut rapporter à un seul style de chanson. Ils en ont peut-être trois, vous l'entendrez. Ce qu'on peut dire d'assez peu de groupes, finalement, quand on y pense. Et de fait, les Pixies, au risque de simplifier, et c'est ce que, bien sûr, vous allez découvrir dans cet épisode, ils ont, en effet, voilà, trois styles de chanson. J'espère que ça va vous surprendre, parce que je sais pas si c'est votre cas, enfin, je dis ça pour celles ou ceux qui sont à peu près de ma génération. Les autres, ils auront peut-être, enfin, j'espère, le choc de la découverte. Eh bien, il y a des enregistrements des Pixies que j'avais oubliés ou négligés et qui m'ont surpris et qui tiennent mieux que la route. Allez, c'est parti.
Somehow, somehow, I win. Somehow,
Veloria, c'est un des sommets des Pixies, c'est un titre qui figure dans l'album Bossa Nova de 1990, tout comme le premier de la séquence qu'on vient d'entendre, Rock Music. Et puis entre les deux, il y avait Wave of Mutilation, c'est un titre qui vient lui de l'album Doolittle, celui qui, sorti en 1989, avait révélé les Pixies à un assez vaste public. Alors ça s'entend tout de suite, on perçoit dans ces chansons un style très similaire à celui du groupe Nirvana. Nirvana n'a publié que début 1989 son premier album Bleach, qui avait été, je l'avais oublié, enregistré en 3 jours pour la somme de $600. Et il se trouve que les Pixies avaient, de leur côté, déjà diffusé à la fin 1987 un premier mini-album de 8 titres qui s'appelait Come On Pilgrim, qui a été très vite suivi de leur premier véritable album, Surfer Rosa, paru, lui, début 1988. Un album, lui aussi, comme celui de Nirvana, enregistré pour un budget extrêmement modeste à l'issue de séances d'enregistrement qui avaient pas dû excéder la semaine. Alors historiquement, on peut tout à fait le soutenir, les Pixies ont été les premiers à avoir l'intuition de ces chansons particulières où alternaient passages traînants mais lourds de menaces, un peu vous savez comme un ciel plombé où l'orage ne se déchaîne pas encore, alternance de ça avec éclairs et orages furieux aussi brefs que violents. On peut d'autant plus le soutenir que Kurt Cobain, quand il a commenté Smells Like Teen Spirit, enfin le titre que tout le monde connaît d'eux, il a dit « Je voulais écrire une chanson comme celle des Pixies ». Mais il faut dire que c'était dans un état d'esprit différent, même tout à fait différent. Il y avait, au fond, chez Cobain, dans son râle, une douleur existentielle proche du blues, alors que chez Charles Thompson, dit Black Francis, le chanteur principal des Pixies, on percevait, une approche plus théâtrale, plus mise en scène dans le bon sens du terme. Black Francis, c'est vrai, a toujours donné l'impression d'incarner différents personnages dans sa voix à la manière, à toute proportion gardée, d'un David Bowie. En tout cas, dans l'un et l'autre cas, les Pixies et Nirvana, c'était des groupes qui, à leur début, évoluaient en marge du courant grand public et qui, qu'ait été leur ambition à leur début, n'imaginaient pas du tout connaître un immense succès populaire. Ça a pourtant été leur cas, pour l'un comme pour l'autre, à différents degrés. Alors l'intéressant chez les Pixies, d'ailleurs tout comme chez Nirvana, encore une fois, c'est qu'ils ont été très marqués, entre autres, par les sons et l'esprit d'un certain rock post-punk typiquement britannique. En particulier par un groupe comme le londonien Wire, une immense influence d'ailleurs, soit dit en passant, sur tout le rock alternatif américain des années 80. Je pense notamment au groupe R.E.M. qui a repris magnifiquement d'ailleurs le titre Strange de Wire. C'est-à-dire une approche froide, caustique, on pourrait dire, du rock. Une approche en tout cas très graphique, cinématographique même, à la fois glaçante et électrisante, qui a mis du temps avant de susciter l'adhésion d'un vaste public. Et puis à ça, il faut ajouter, alors on en a un peu parlé dans le premier épisode de la semaine, vous vous souvenez sans doute qu'on a eu un petit entretien avec Charles Thompson et Joey Santiago. Il y a chez les Pixies une approche particulière surréaliste au vrai sens du terme. J'entends l'emploi de mots et d'images délibérément bizarres, poétiques ou bien sans queue ni tête, comme dans la chanson qu'on a entendue au début, appelée par ironie Rock Music, où Frank Black répète « Your mouth's a mile away hein, »,« Ta bouche est à des kilomètres », sans qu'on ait la moindre notion de quoi il veut parler, et encore moins de ce qui le rend tellement enragé. Ou encore Veloria, qu'on vient d'entendre, où il se demande « Comment une peau de lémurien peut refléter la mer ?» avant de proclamer d'une voix défiante, un peu nasillarde, toi et moi, on va rejoindre l'éclat du tout jamais. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il le sait pas lui-même. En fait, il joue comme un enfant à assembler des mots et des sons qu'il comprend pas et qu'il enfile comme un chapelet d'objets incongrus et mystérieux. Alors, il y a une qualité particulière dans les chansons des Pixies, c'est la concision. En voici une illustration sonore, évidemment. 3 titres enchaînés de 2 minutes chacun, voire moins. Planet of Sound, Allison et Tame, c'était entre 89 et 91. Les Pixies. We'll be right back.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Time, un des titres les plus mémorables de l'album Doolittle des Pixies, sorti en 1989, très proche dans sa brièveté percutante des premières chansons du groupe anglais Wire, publiées entre 1977 et 1979, avec une sorte de folie enragée en plus. Alors à ce sujet, il faut apporter un éclairage précis. Il s'agit en aucun cas d'une explication sociale ou psychologique, mais plutôt culturelle. Je m'explique. Le chanteur principal des Pixies, Charles Thompson, alias Black Francis ou encore Frank Black, alors déjà le recours à deux pseudonymes différents, ça nous apporte un indice, a été élevé par un beau-père chrétien pentecôtiste. Alors ça semble anecdotique dit comme ça, mais en fait c'est central. En effet, les pentecôtistes, c'est bien plus qu'une secte, c'est un mouvement qui revendique plusieurs centaines de millions de croyants dans le monde, accueillent le Saint-Esprit d'une manière extrêmement singulière pendant l'office. Oui, qu'est-ce qui se passe? Certains fidèles peuvent brusquement perdre le contrôle d'eux-mêmes et se mettre à tenir des propos sans queue ni tête dans une langue qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Alors pour une majorité de citoyens qui vivent dans un monde occidental largement déchristianisé et puis qui se veut rationnel, évidemment ce genre de phénomène relève de la psychiatrie. Mais c'est pas du tout le cas pour les croyants pentecôtistes qui estiment que ces fidèles sont en vérité visités par l'Esprit Saint. Alors c'est une idée qui nous paraît délirante, sauf que finalement quand on y pense chez nous, elle peut exister sous une autre forme, puisque je sais pas, il y a d'autres formes de croyances. Le romantisme parlait bien d'inspiration divine, et puis le surréalisme, un siècle plus tard, a prétendu que la poésie et la peinture avaient le pouvoir de nous transporter dans une réalité supérieure par un langage pouvant paraître absurde aux esprits bornés. Et c'est là que je voulais en venir. Pour Charles Thomson, il existe un lien entre la possession par l'Esprit Saint, un lord de Seine d'ailleurs qu'il a vu lors d'offices religieux auxquels il était contraint d'assister, et le surréalisme qui est pour lui un langage naturel. C'est ce qu'il d'ailleurs nous a raconté, vous l'avez entendu dans le premier épisode de cette série. En fait, il adopte différentes voix qui hurlent par sa bouche des insanités ou des absurdités qu'il accueille comme autant de mystères qui peuvent l'exciter, ou lui faire peur, ou l'exalter, enfin c'est selon. Voilà, fin du cours magistral. Monkey Gone to Heaven, c'est un des meilleurs titres de l'album Doolittle des Pixies, sorti en 89. Alors il y a dans cette chanson des paroles, ça m'a frappé, qui évoquent des préoccupations très contemporaines. La terre n'est pas froide, et si la terre n'est pas froide, tout va brûler. Étonnant, non ?
Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
Your mouth.
Est-elle bizarre? Est-elle blanche? Est-elle promise à la nuit? Il n'y a pas de place dans sa tête. En voilà des questions étranges posées par Charles Thompson, qui se faisait appeler alors Black Francis au sein des Pixies. Cette chanson remonte à l'année 1990 et à l'excellent album Bossa Nova, le troisième du groupe si on compte pas le mini-album de maquette Command Pilgrim sorti en 87. Alors quand je parle de Black Francis, je sais d'ailleurs plus quoi dire, je dis le chanteur principal des Pixies parce qu'il a plusieurs identités. Oui, alors je dis le chanteur principal parce qu'il n'était pas le seul. Il arrivait en effet que ce soit la bassiste Kim Deal, future créatrice des Breeders, un groupe qui a marqué les années 90, qui chantait certains titres. Kim Deal, qui écrivait elle aussi des chansons et qu'une légendaire rivalité a vite opposé à Thompson. Et puis il est aussi arrivé que le guitariste Joey Santiago chante certains titres comme d'ailleurs La La Love You dans Doolittle. Alors je vous parlais de l'aptitude des Pixies à maîtriser plus d'un style de chanson. Il y a en effet une certaine vibration latine qui parcourt parfois certaines chansons des Pixies. On peut peut-être mentionner le séjour de 6 mois qu'a fait Thompson, alors âgé d'une vingtaine d'années, sur l'île de Porto Rico, dans le cadre d'un échange étudiant, alors je sais pas, c'est une hypothèse, ou encore les lointaines racines hispaniques du remarquable guitariste Joey Santiago, très marqué par le surf rock et son vibrato de guitare, hein, très présent dans le rock latino en général. Enfin, en tout cas, ce sont des conjectures. En tout cas, cette fibre latine a été exceptionnellement appréciée par le public et les musiciens français. Il y a eu d'ailleurs, à la fin des années 80, une concomitance avec le groupe de Manu Chao, la Mano Negra, c'était la même période. Et puis, l'influence des Pixies a été extrêmement forte sur des groupes comme Dionysos ou Louise Attack, à égalité sans doute avec les Violent Femmes qu'on a pu redécouvrir il n'y a pas tellement longtemps dans Very Good Trip sur France Inter. Voilà, je l'ai placé, c'est bien, il faut le faire. Pixies, Nimrod Sun, c'est extrait de Surfer Rosa, le premier véritable album des Pixies en 1988.
Water, oh Neptune has only daughter.
Vertigo Trip sur France Inter.
Debaser, un néologisme qui est resté, qui vient du verbe to debase, hein, avilir ou rabaisser quelque chose ou quelqu'un. Alors dans cette chanson qui est restée un classique, extrait de l'album Doolittle des Pixies, sorti en 89, Charles Thompson s'exclame en fait « I am un chien andalousien ». Alors, j'avais jamais compris un traître mot à ce qu'il racontait il y a 30 ans. Je m'en fichais bien d'ailleurs. Il a fallu que je cherche les paroles 30 ans après, c'est jamais trop tard pour bien faire. Alors en fait, c'est une allusion évidente à l'historique premier court-métrage de Luis Buñuel, c'était en 1929, Un chien andalou, dont Buñuel avait écrit le scénario avec Salvador Dali, Dali d'ailleurs une des obsessions de Charles Thompson. Et la vision d'ailleurs de ce court film que j'avais vu à la télévision quand j'étais gamin, c'était l'époque où la télévision nationale voilà montrait des classiques, m'avait traumatisé. On voyait une femme se faire couper un œil en lamelle par un rasoir à lame libre. C'est d'ailleurs ce que décrit Thompson dans les paroles de la chanson, découper un globe oculaire en rondelles. Je veux que tu sois au courant. Ben voilà, on est au courant. Juste avant Mr. Greaves et Something Against You, c'était dans Surfer Rosa. Tout de suite, le titre qui clôt l'album Doolittle, Gouge Away, un des meilleurs de l'album. Gouge Away. Qu'on n'aurait pas l'idée d'associer spontanément aux Pixies, c'est celui de Neil Young. Et bien, il se trouve que la chanson que vous venez d'entendre était signée par lui, et cette chanson, donc Winter Long, initialement, il l'avait gravée lors des séances de l'album Tonight's the Night, qui était sorti en 75, mais en fait, il avait été enregistré 2 ans plus tôt. Et puis, la chanson était apparue dans une compilation de Neil Young de 77, un triple album, vinyle évidemment, qui s'appelait Decade. Et puis, les Pixies ont eu l'idée de reprendre ce Winter Long pour un petit 4 titres, donc sorti en 1990. On a pu redécouvrir cette chanson dans une compilation des, entre guillemets, face B des Pixies. Il me semble que c'était il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Juste avant, une des toutes premières chansons du groupe The Holiday Song, c'est une des maquettes initiales des Pixies et figure dans le mini-album Come on Pilgrim, sorti en 1987. Et on y découvre, au fond, que Neil Young est, si j'ose dire, hein, une des voix possibles de Charles Thompson, enfin Black Francis, Frank Black, ce que vous voulez. C'est parfois dur de savoir sur quel pied danser avec celui-là. Alors, pour conclure, une des premières chansons qu'a écrite Charles Thompson, il avait, c'est son témoignage, 14 ans, il paraît que c'était au piano, dans le salon parental. À l'origine, c'était une chanson country, au rythme assez lent. Alors, on imagine ça très bien, d'ailleurs, quand on l'écoute. C'est vraiment un des meilleurs moments de l'album Doolittle, un album paru, je vous le rappelle, il y a tout juste 30 ans, en 89, et qui restait un classique. C'est une chanson un peu différente, aux paroles qui évoque de façon triste mais poétique les personnes sans domicile fixe dans le froid et dans l'hiver, une de ces rares chansons où Charles Thompson des Pixies s'est présenté sans masque, à visage découvert. Here comes your man. Avec Here Comes Your Man que s'achève ce concert imaginaire des Pixies. Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir un concert où ils avaient cette liste-là. Merci beaucoup à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Grégory Wallon à la technique, Zora Ben Smiley pour le site internet et Romain Couturier à la discothèque de Radio France. Very Good Trip, c'est fini pour cette série. puisque demain, 19 septembre, vous retrouverez de façon exceptionnelle la première nuit de la pop culture présentée par Antoine Decaune. Ce sera à Ground Control à Paris. Voilà, et bien moi, il me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine. Tout de suite après les informations, et bien vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. À la semaine prochaine.